1, 2, 1, 2, test, test, micro.
Micro,
micro.
Microscopie,
la société au microscope.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Mardi dernier, en visite dans l'Est de la France, le président de la République lui-même annonçait une série de mesures en faveur du logement. Des mesures qui doivent en priorité venir en aide aux 100 000 personnes sans domicile fixe et aux 2 millions de mal logés recensés par la Fondation Abbé Pierre. Des chiffres que le président de la République a repris à son compte et qui montrent l'ampleur des problèmes liés au logement dans notre pays. Dans le même temps, des familles mal logées justement campent en plein cœur de Paris depuis plus de 2 mois, depuis le 3 octobre. Régulièrement expulsées par la police, ces familles reviennent tout aussi régulièrement installer leurs tentes sur les trottoirs au pied de la Bourse de Paris. Que demandent-elles ces familles justement ? Elles réclament un vrai logement, elles n'en peuvent plus de vivre en famille dans des hôtels meublés où il est interdit de se préparer un repas, où il est interdit de recevoir des visiteurs et où elles payent parfois des sommes faramineuses. De plus en plus, les hôtels meublés font figure d'hébergement d'urgence. De plus en plus, des familles en attente d'un logement social passent des mois à s'entasser dans ces hôtels aux conditions de confort qui sont parfois spartiates. Il y aurait ainsi 12 500 personnes vivant dans des hôtels meublés, 12 500 personnes qui dépensent beaucoup d'argent, mais pour lesquelles l'État en débourse encore plus. Le coût serait en effet de 75 millions d'euros en 2007 pour l'État. La ville de Paris aurait, elle, de son côté, dépensé en 2007 16 millions d'euros pour héberger 2100 enfants et 1500 adultes. C'est donc ce dossier des hôtels meublés que Microscopie a décidé d'ouvrir aujourd'hui. Pour nous éclairer, nous recevons Benoît de Bureau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignante de lettres à l'université, mais vous êtes surtout un militant infatigable de l'association Droit au Logement.
C'est ça. Depuis 10 ans.
Nous recevons également Claire Lévy-Vroëlan. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris 8, chercheur au centre de recherche sur l'habitat, qui est une unité qui dépend du CNRS. Vous avez été membre de l'Observatoire des hôtels qui a été créé par la mairie de Paris et vous avez publié une étude quasi exhaustive, on peut le dire, sur les hôtels meublés entre 1860 et 1990. Un livre intitulé Une chambre en ville qui est paru aux éditions Créafis et qui mêle une approche historique et une analyse sociologique de ce phénomène. Il y a une évolution historique qu'on remarque dans ce bouquin sur un siècle et demi.
Oui, bien sûr. Si on commence, comme on a fait avec mon collègue Alain Faure, qui est historien, au milieu du 19e siècle, on a identifié un certain nombre d'âges des meublés successifs, mais c'est vrai que là, avec l'intervention publique, on entre peut-être dans un âge encore nouveau où, bon, pour aller vite, mais on pourra peut-être revenir dans le détail, il y a une sorte de détournement d'usage. Pourquoi en référence à une fonction passée, j'aime bien dire que Paris s'est faite aussi avec ses hôtels et ses meublés parce que la croissance migratoire qui a fait la capitale n'a pu se faire en fait que grâce à ce dispositif d'accueil pour le meilleur et pour le pire.
Disons qu'on est passé d'un stade où les hôtels meublés étaient un lieu de passage vers un moment où les hôtels meublés deviennent un cul-de-sac.
Oui, si on veut, on peut le résumer comme ça. Ça veut dire aussi que le système des meublés autrefois était donc un système hospitalier, bien que toujours souvent stigmatisés parce que c'était les plus pauvres, les derniers arrivés, ceux qui n'avaient pas de meubles, etc. Mais on y entrait et on en sortait. Aujourd'hui, on le verra sans doute plus tard, on a du mal à en sortir. Et en particulier certaines catégories de la population qui n'étaient pas à l'origine les populations qui se trouvaient dans les hôtels. C'était le système des meublés, c'était l'homme célibataire seul, le migrant provincial, puis au XXe siècle venu de l'étranger, qui venait, qui s'installait pour un mois, 2 mois, quelques mois, qui tournait éventuellement dans le secteur et puis qui repartait ou s'installait dans ses meubles.
Benoît de Bureau, vous le remarquez ça aussi, cette espèce de glissement qui va cette confusion entre le logement et l'hébergement, quoi.
Alors déjà, la première chose peut-être sur la question des meublés, c'est de préciser que l'immense majorité des familles qui vivent actuellement à l'hôtel ne vivent pas dans des meublés. Elles vivent dans des hôtels de tourisme. Donc c'est déjà une différence qui est d'abord une différence de prix et une différence théorique de services rendus par les hôtels. Donc quand on dit que les meublés ont eu ce qu'on appelle en fait un usage social de fait, c'est-à-dire ont logé pendant longtemps une partie de la population qui ne se logeait pas ailleurs et qui à un moment arrivait à évoluer à sortir de ces hôtels, on parle bien des hôtels meublés, qui avaient aussi une fonction de contrôle social, puisque c'est ce qu'on appelle aussi des hôtels préfectures avec des fiches à remplir, tout ça.
Tout à fait.
Mais là, on parle plus de meublés, on parle d'hôtels de tourisme. C'est-à-dire qu'on utilise des lieux qui sont prévus pour accueillir des gens qui sont vraiment de passage,
des
touristes, qui viennent par ailleurs dépenser de l'argent en France. On l'utilise pour loger des gens qui ne viennent pas dépenser de l'argent mais qui sont là pour travailler, qui pour l'immense majorité d'entre eux travaillent et qui restent coincés pendant des années. Donc effectivement, il y a une confusion réelle entre hébergement et logement, qui est d'ailleurs entretenue jusqu'au gouvernement, puisque Madame Boutin a fait savoir à plusieurs reprises que les familles de la rue de la Banque, elle les considérait comme étant mal logées, alors que ces familles elles-mêmes se considèrent comme n'étant pas logées. Puisqu'elles n'ont pas de logement, elles ont juste des hébergements précaires dans des hôtels.
Justement, hein, autour de cet hébergement en hôtel, il faut faire, je crois, la distinction aussi entre deux catégories de familles. Céline Develay-Mazurel, il faut faire donc la distinction entre ces deux types de familles qui sont hébergées dans les hôtels. Vous nous expliquez ça rapidement.
Oui, Edouard, parce que le cadre d'intervention n'est pas le même et le payeur non plus. D'un côté, vous avez les familles sans papier ou en voie de régularisation qui sont hébergées en hôtel via le SAMU social de Paris. Dans ce cas de figure, la note d'hôtel se paye à la nuit et à la personne, et c'est surtout l'État qui en assume la charge financière. De l'autre côté, vous avez ces familles, dont on a beaucoup parlé récemment, rue de la Banque, celles qui sont en situation régulière et qui travaillent, comme vous le disiez, Benoît de Bureau, et qui partagent, avec l'aide sociale à l'enfance, le poids exorbitant de la vie en hôtel, un paiement au mois.
Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet hébergement social d'urgence, celui qui devrait théoriquement être la panacée des hôtels ?
Le principe qui domine ici est simple et louable. Aucun enfant ne doit dormir dehors. Ainsi, depuis des années, de plus en plus de familles étrangères ou sans papier ont fait appel au SAMU social de Paris. Rappelez-vous, en 2005, les dramatiques incendies qui ont frappé successivement trois hôtels insalubres de la capitale. La France découvrait alors ces hôtels sordides, dangereux et payés à prix d'or par les pouvoirs publics. À l'époque, le nœud du problème était la sécurité et l'insalubrité des familles, et la colère des familles était à son comble. Grâce à la sonothèque de RFI, j'ai retrouvé le témoignage d'une ancienne locataire du Paris Opéra, un hôtel détruit par les flammes en avril 2005. 25 personnes, dont 11 enfants, y avaient trouvé la mort.
Il y a une semaine, je suis partie de cet hôtel avec mes trois filles. On paye très cher, l'État paye les hôtels très cher, mais les gens, ils vivent mal à l'intérieur. Des puces, des tours, du n'importe quoi, tout est pourri, tout est pourri. Et cette préfecture, ils viennent là-bas, ils regardent, ils s'en fichent, ils tournent le dos, ils s'en vont. Tu peux pas te plaindre, ils sont au courant, c'est l'État. Ils viennent, ils font des contrôles, ils regardent, mais ça ne leur dit rien. Parce que qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? C'est les familles africaines, c'est des pauvres gens désespérés. Du moment où on vous a donné un trou pour dormir, ça suffit.
Suite à cette tragédie, les pouvoirs publics ont pris conscience des conditions désastreuses dans lesquelles vivaient ces familles, pour la plupart immigrées. La préfecture de police de Paris a systématisé le contrôle des hôtels. Une liste noire des hôtels insalubres et impropres à l'hébergement social a été établie. Et surtout, le parc hôtelier est désormais mieux référencé. Enfin, le SAMU social a mis en place en 2006 un dispositif inédit, le pôle d'hébergement et de réservation hôtelière, qui travaille aujourd'hui avec 200 hôtels homologués. Laura Berge est à la tête de ce service.
On a procédé à un audit où on a été visiter tous les hôtels avec lesquels on travaillait, toutes les chambres dans lesquelles on orientait les familles, et en 6 mois de temps, on s'est séparés des plus mauvais.
Ce qui faisait combien ?
Une bonne cinquantaine d'hôtels. On se conforme d'abord effectivement au contrôle de la préfecture de police, dans la mesure où on oriente les familles dans des chambres qui sont adaptées au nombre de personnes que compose la famille, c'est-à-dire que le carton jaune, on appelle ça le carton jaune, recense toutes les chambres parisiennes, et dit la chambre X est pour 3 personnes. Donc on orientera exclusivement une famille de 3 personnes. On ne suroccupe pas les chambres. Nos vérificateurs sont en charge de vérifier la prestation et le confort dans les hôtels. Et nos médiatrices sont en charge d'aller à la rencontre des familles, de discuter avec elles de l'hébergement, de la façon avec laquelle elles le vivent, et de tenter d'améliorer au mieux les conditions d'accueil et d'hébergement.
Comme on vient de l'entendre, les conditions d'hébergement d'urgence se sont nettement améliorées. Reste le souci du coût financier de ce recours à l'hôtel en constante inflation. En 2004, rien que dans les hôtels, le SAMU social a dépensé 24 millions d'euros, soit 70% de son budget, ce qui fait 5 fois plus qu'en 2000. Épinglé donc par différents rapports, le SAMU social s'est efforcée de réduire au maximum le coût de la nuitée d'hôtel. Elle est aujourd'hui de 16,80 euros par nuit et par personne. Je vous laisse faire le calcul pour une famille avec 3 enfants.
Ça fait beaucoup de maths, 16,80 euros par 5, ça fait 84 euros, donc 2520 par mois.
C'est ça, et si exorbitant que ces tarifs paraissent, ils sont pourtant bien meilleurs qu'avant. Et pour y arriver, le SAMU social a dû faire appel à des intermédiaires privés. J'ai cherché à en savoir plus sur le rôle de ces intermédiaires, et quand j'ai enfin réussi à avoir au téléphone deux d'entre eux, Promotel et Voyage Service Plus pour ne pas les nommer, tous deux ont refusé de répondre à mes questions. Étonnant quand on sait qu'ils ont créé un service qui ne s'occupe que de l'urgence sociale. Côté SAMU social, on n'y voit rien à redire. Laura Berge et Xavier Emmanueli, directeur du SAMU social de Paris.
Ce sont enfin, pour la plupart des tours opérateurs qui se sont spécialisés dans l'hébergement social, entre guillemets, mais qui nous ont permis aussi d'accéder à des chaînes d'hôtels, par exemple, auxquelles nous n'avions pas accès de façon indépendante. Le rôle, c'est de nous mettre à disposition des chambres quand on a des demandes d'hébergement pour une vingtaine ou une trentaine de familles. Nous seuls, nous avions du mal à trouver des solutions en masse.
Alors, ils font pas ça, ce sont pas des philanthropes, ils prennent un pourcentage sur les chambres d'hôtel, ils voient ça avec les hôteliers.
Directement avec les hôteliers, nous on leur paye, mais comme pour tous les hôtels, un prix à la nuitée, qui d'ailleurs nous a permis de faire baisser ce prix, qui était il y a 5 ans à 20 euros par jour et par personne. Aujourd'hui on est quand même descendu à 16,87 euros, et c'est quand même aussi grâce à eux.
Si vous voulez, c'est un espèce de mauvais procès de dire, oui vous engraissez des gens qui prennent leur marge. Si vous n'avez pas les intermédiaires, ça veut dire que vous allez recruter du personnel à plein temps qui va faire que ça. Dire que, est-ce que le SAMU social, qui est quand même un dispositif de l'urgence, de professionnel, de terrain, est-ce que c'est vraiment son métier? Moi, je demande pas mieux. En fait, si on trouve ça choquant de passer par des intermédiaires dont c'est le métier qui sont des tours opérateurs, on dit non, c'est une mauvaise solution, faites-le vous-même. Très bien. Alors on le fera si on nous en donne les moyens et l'ordre.
Alors, mauvais procès ou pas, on peut quand même se poser la question du marché captif de la précarité, non seulement du point de vue des hôteliers qui s'assurent une clientèle à long terme et solvable, parce que payée par l'État, mais aussi du point de vue de ces fameux intermédiaires. Un dernier chiffre pour finir, pour seulement les mois de janvier et février 2004, le SAMU social a reversé à deux de ses intermédiaires 383 000 euros en nuitées d'hôtel. Si comme les professionnels du tourisme, ils prennent une marge de 10%, cela fait quand même une somme rondelette. Et là aussi, Edouard, je vous laisse le soin de faire le calcul.
Benoît de Bureau, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce recours à des intermédiaires privés? Je crois que ça vous indigne.
Alors, avant d'aborder la question du recours aux intermédiaires privés, j'aimerais revenir juste sur la question de l'amélioration des conditions d'accueil. Nous ne pensons pas, au DAL, qu'on peut dire que les conditions d'accueil se sont améliorées dans les hôtels avec les inspections qui ont été faites par les préfectures. Je vous donne un exemple, un hôtel situé dans le 11e arrondissement de Paris qui a été visité par les services de la préfecture et qui a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative, hein, pour raison d'insécurité. Les familles, pendant la durée de l'arrêté de fermeture, ont été maintenues dans l'hôtel. Donc, pendant 6 mois, l'hôtel était administrativement fermé et les familles ont continué à vivre dedans. Cet hôtel a été rouvert alors qu'aucun travaux n'a été effectué par le propriétaire. Et il y a d'ailleurs eu un reportage tourné à ce moment-là dans l'hôtel et on voit dans le reportage les employés de l'hôtel qui vissent les détecteurs de fumée au fur et à mesure que la commission de sécurité monte dans les étages. Donc le truc a été rouvert, les familles étaient toujours dedans. Donc les conditions de vie de ces familles ne se sont absolument pas améliorées. Donc la préfecture en quelque sorte s'est déchargée de sa responsabilité pour les incendies éventuels qui pourraient y avoir à l'avenir dans les hôtels en faisant passer les commissions de sécurité, mais pour les familles elles-mêmes ça n'a rien changé. Première chose. Deuxième chose, sur la question des intermédiaires, nous au-delà du système des intermédiaires, on trouve que utiliser les hôtels pour héberger les gens c'est scandaleux. Quand on sait le nombre de logements qui sont vides, quand on sait que d'autres dispositifs sont possibles, peut-être on y reviendra plus tard, oui. Comme cette question de la sous-location dans le privé qui se fait en Angleterre, quand on sait que d'autres moyens sont possibles, pourquoi aller utiliser des hôtels qui n'ont pas vocation à accueillir des familles qui, quoi qu'il arrive, ne seront pas adaptés pour héberger des familles quand on sait que ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois et par famille?
Vous, Claire Lévy-Vrouillan, vous avez travaillé à l'Observatoire. On ne peut pas dire particulièrement que la ville de Paris n'ait rien fait. Il y a eu un boulot assez considérable qui a été fait quand même depuis 2005-2006.
Oui, alors bon, je vais peut-être rectifier un tout petit peu. Je n'ai pas travaillé à l'Observatoire des hôtels. On m'a demandé, j'ai participé très volontiers à une mise en perspective historique de la situation des hôtels meublés à Paris. Bon, l'idée qu'on défendait et que je continue à défendre, c'est que ces hôtels, comme je disais, pour le meilleur ou pour le pire, sont des lieux d'accueil, sont, comme vous l'avez dit, du logement social de fait. Et si on les abandonne à leur triste sort dans un cadre ultra-libéral de spéculation immobilière, comme a connu la ville de Paris depuis en particulier les années 70, il est évident que le secteur va disparaître. Et disparaître au profit de quoi? Au profit de logements qui sont en tout cas inabordables pour les publics qu'elles logent ou qu'elles logeaient. Donc l'idée, si vous voulez, de mettre de l'argent public dans une remise à flot d'un certain nombre d'hôtels qui sont gérés par des hôteliers. Moi, quand on parle de marchands de sommeil, je veux bien, mais ce secteur, il est globalement tenu par des gens qui font des profits relativement modérés par rapport à d'autres secteurs de l'immobilier ou d'ailleurs du parc touristique privé. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc, qu'on les aide en finançant par l'effort de la collectivité parisienne ou par le financement public 50% de leurs travaux pour améliorer les conditions d'accueil et qu'en échange de quoi un certain nombre de chambres soient réservées pour des gens qui sont alors effectivement passer par soit le SAMU social, soit des associations pour y être logé, je trouve que c'est plutôt positif. Ceci dit, les familles à l'hôtel, c'est un scandale, ça l'était autrefois, ça l'est toujours aujourd'hui. Il y a plus de 2000 enfants à l'hôtel aujourd'hui à Paris, je trouve qu'il y en a 2000 de trop. Donc les conditions de vie à l'hôtel sont absolument contradictoires avec une vie de famille normale. Ceci dit, il y a des hôtels qui fonctionnent bien, qui remplissent une fonction intéressante, en particulier pour des vieux migrants qui y habitent depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément intérêt ni envie de changer. Donc ne noyons pas le bébé avec l'eau du bain, je crois que c'est assez compliqué. Et je voudrais juste dire une chose sur l'argent public dépensé. Pour moi, le scandale, c'est pas qu'on paye 6,5 millions de nuitées en hôtel, qui correspond à peu près à 8 000 et quelques personnes à Paris. Le scandale, c'est l'urgence sociale. Et c'est qu'on n'est pas capable de la résoudre à quelques bouts que ce soit de la chaîne. Parce qu'il manque des places aussi dans les CHU, dans les CHRS. Et puis, il manque surtout des logements à des prix abordables, dans le public comme dans le privé.
Mais il y a deux choses différentes, en fait. Il y a les hôtels meublés et les hôtels de tourisme. Alors, vous dites que les profits ne sont pas scandaleux. L'hôtel dont je parlais tout à l'heure, donc situé dans le 11e arrondissement, son propriétaire est propriétaire de 6 hôtels. Il a gagné 1,5 million d'euros en 2005. Nous, on considère qu'il a gagné 1,5 million d'euros sur le dos des familles qui logent dans ces hôtels.
Le terme de marchand de sommeil, vous le reprenez à votre compte.
Nous, on le reprend complètement à notre compte, à la fois pour ceux qu'on... pour, on va dire, le marchand de sommeil classique, c'est-à-dire le type qui possède en propre l'hôtel et qui va, sans jamais l'entretenir, y loger des familles dans des conditions de vétusté et de dangerosité importantes. Mais quand on sait que les chaînes hôtelières utilisent également, parce que c'est vraiment, enfin, quand je dis le mot utilise, je l'emploie sciemment, utilisent les familles sans logis comme volant compressible, on va dire, de clients pour remplir leurs hôtels, on peut considérer que ces chaînes hôtelières sont également des marchands de sommeil. C'est-à-dire qu'elles vendent à prix d'or des nuitées pour héberger des gens qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Quant à la question de la fonction sociale des hôtels, quand on parle de logement social de fait, on parle en général d'un parc peu cher, vétuste, certes, mais peu cher, qui sert à loger des gens qui ne pourraient pas se loger ailleurs. Mais qui sert à ce que se logent tout seuls, en quelque sorte, sans qu'intervienne la puissance publique pour construire du logement social, ces personnes qui ne peuvent pas se loger ailleurs. Ce n'est absolument pas le cas des hôtels, qui, je le rappelle, sont des hôtels de tourisme, qui sont chers et qu'on ne peut pas considérer comme un logement social de fait, parce que les gens ne peuvent pas les payer.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence pour 16,80 € par personne, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, ce qu'on peut faire...
Dans l'urgence, d'hébergement d'urgence.
Ce qu'on peut faire, c'est louer des logements. Les logements, quand on voit, donc c'est autour, on va dire autour de 3 000 € à Paris, hein, par famille et par mois. Pour 3 000 € par mois, il est possible de trouver nettement moins cher, de trouver nettement moins cher et nettement plus grand dans le parc privé. Donc, il nous semble que la puissance publique, que ce qu'il s'agisse de l'État via le SAMU social ou des conseils généraux via l'aide sociale à l'enfance, pourrait organiser la location dans le privé de logements afin d'y héberger les familles. Ça se fait dans d'autres pays, ça se fait en Angleterre. Il y a 100 000 ménages qui sont hébergés dans ces conditions-là en Angleterre, et c'est de l'hébergement d'urgence, hein, qui remplace les hôtels. Les hôtels n'étant plus utilisés en Angleterre que pour quelques nuits. La durée maximum légale est d'ailleurs fixée. Hein. En Écosse, par exemple, c'est 14 jours. On n'a pas le droit de laisser une personne dite vulnérable.
En France, le séjour moyen est de 144 jours. C'est ça,
non? Ça, c'est le séjour moyen. C'est même pas la durée maximum. Oui, oui. Il y a des gens qui sont à l'hôtel depuis 10 ans en France. Donc en Écosse, au bout de 14 jours, on doit nécessairement passer d'un hôtel à un logement. Que ça soit un logement temporaire social, du parc social, que ça soit un logement temporaire dans le privé, ou que ça soit un logement social définitif. Mais la location dans le privé a ouvert vraiment des possibilités, quoi, en Angleterre, pour faire fermer le parc d'hôtels, ou en tout cas pour le ramener à sa vocation première, qui est le fait de loger des touristes. Donc ça, c'est une des possibilités qui existent. Il y en a d'autres. Il y a par exemple l'application de la loi de réquisition qui permet de créer du logement d'urgence. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 136 000 logements qui sont vacants pour 114 000 demandeurs de logement. Et quelques milliers de familles dans les hôtels. Donc l'État a le pouvoir de réquisitionner ces logements qui sont vacants.
12 500 personnes dans les hôtels.
Dans 136 000 logements, ça rentre largement.
Vous avez le même chiffre. On en parlera, hein, dans la deuxième partie. C'est justement ça, de voir comment est-ce que ces hôtels deviennent finalement des solutions quasi durables. Hein. Vous parliez de familles qui sont depuis 10 ans. On se retrouve donc dans 10 minutes pour la suite de cette émission. En attendant, ne manquez pas toutes les nouvelles du monde sur la radio du monde. A tout de suite, donc.
Déjà, j'habite à un hôtel. T'habites où, à un hôtel?
Je sais pas.
Ça le fait pas trop.
Si j'habite en face de Leader Price.